Le journaliste Mireille Boukassa.
L'expulsion des Congolais de l'Angola au centre d'une rencontre ce matin entre les autorités de ces deux pays. L'ambassadeur de l'Angola explique cette expulsion, notamment par l'organisation prochaine des élections en Angola. Le ministre congolais de l'Intérieur, lui, démontre que cela se passe dans la dignité. Au Sud Kivu, les habitants de la localité d'Ndunda ont abandonné leurs habitations depuis hier soir. Ils craignent des combattants burundais des FNL qui ont envahi leur localité. Une grande partie de Kinshasa est sans électricité depuis hier soir. Cette panne qui provient de la ligne Inga dans le Bas-Congo sera réparée cet après-midi selon l'ADGA de la SNEL. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Expulsion des Congolais de l'Angola. Le sujet a été au centre d'une rencontre ce matin à Kinshasa entre l'ambassadeur de l'Angola et trois ministres du gouvernement congolais. L'ambassadeur João Batista Maoete est allé expliquer les raisons des dernières expulsions. Selon lui, les raisons sont plusieurs, notamment l'organisation prochaine des élections en Angola. L'ambassadeur angolais affirme qu'il y a 3 ans, son pays avait parlé de ce projet avec le gouvernement congolais. João Batista Maoete au micro de Jeff Ngoy.
Le gouvernement angolais qui est dans son programme de préparation de ces élections, et lorsque nous sommes entrés maintenant d'enregistrer les citoyens angolais qui sont habilités demain à voter, je vais vous rappeler qu'il y a plus de 3 ans de ça, nous avions eu ici à Kinshasa une grande délégation angolaise qui a eu des discussions profondes avec la partie congolaise pour essayer de créer des conditions afin de recevoir ses citoyens. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'application de toutes ces mesures qui ont été prises. En Angola, il y a des milliers de Congolais. Ceux qui sont concernés, c'est surtout ceux qui se trouvent dans des zones d'exploitation diamantaire et illégalement. Je ne connais pas quelqu'un qui a été secoué avec violence. Quelqu'un a parlé hier des enfants jetés dans l'eau. Ça relève de ses responsabilités. Et ça, en tant que gouvernement angolais, nous les rejetons catégoriquement.
Le ministre de l'Intérieur, Denis Kaloumé, s'exprimant au nom du gouvernement, annonce une mission dans les zones où arrivent les expulsés. Denis Kaloumé lance également un appel à la partie angolaise pour que cette expulsion se fasse dans la dignité. On écoute Denis Kaloumé au micro de Jeff Ngoy.
Le président de la République a demandé que nous puissions nous réunir rapidement, que nous puissions tout d'abord obtenir de l'ambassadeur des explications requises et ensuite descendre sur le terrain pour obtenir aussi les maximums d'informations, soulager les Congolais et trouver des solutions appropriées pour résoudre ces problèmes-là, localement tout d'abord et puis à l'échelon des contacts diplomatiques ensuite.
L'ambassadeur nous a dit que le gouvernement congolais en avait déjà été prévenu depuis 3 ans.
C'est-à-dire que le gouvernement angolais avait prévenu qu'il allait entreprendre une série d'actions pour récupérer l'ensemble des terrains qui étaient occupés par Savimbi et qui étaient exploités anarchiquement par des clandestins et tout cela. Il faut que les Congolais soient traités avec dignité. Même s'il est expulsable, mais il faut quand même qu'on les traite avec dignité et qu'à l'échelon des contacts diplomatiques, on soit suffisamment prévenu à temps pour que nous prenions des dispositions pour les accueillir.
Rappelons qu'au moins 25 000 Congolais sont arrivés le week-end dernier dans les localités frontalières à l'Angola, notamment au Katanga et dans les deux Kasaï. Près d'un millier de personnes vivent dans des situations difficiles dans le Nord Kivu. Il s'agit précisément des déplacés et enfouis il y a une semaine les affrontements entre les combattants de Jackson et ceux de La Fontaine dans la localité de Kasiki au sud du territoire de Lubero. Ces déplacés arrivent dans un état de dénuement total. Inquiète, la société civile de Lubero lance un appel à l'aide en leur faveur. Etienne Windo.
Ces déplacés, 1453 familles recensées par la Croix-Rouge et territoire de Lubero dans la seule cité de Luofu, arrivent dans un état de dénuement total. Ils ont besoin de nourriture, de vêtements, de tentes, de couvertures et de soins médicaux. Tous ces besoins sont urgents en cette période pluvieuse, rappelle le vice-président de la société civile, M. Omer Kambale. Le responsable de Ocha Beni, M. Balthazar Ainda, reconnaît la gravité de la situation et souligne que l'ONG Solidarité a procédé le week-end dernier à l'évaluation des besoins. Il rassure que des contacts sont pris avec les partenaires, notamment PAM et LWF, pour une intervention urgente en vivres, non-vivres et en médicaments, en faveur de ces déplacés du sud de Lubero. Notez aussi que ces déplacés se dirigent également vers les cités voisines de Kaina, Kirumba, Miobo et Kanyabayonga pour fuir toujours les combats entre les deux factions Maïmaï de Jackson et La Fontaine, déclare M. Omar Kambale, vice-président de la société civile de Lubero. Etienne Mwindo, Butembo, Radio Okapi.
Toujours dans le Nord Kivu, au moins 600 familles de militaires installées sur le site du cercle sportif de Goma vivent dans des conditions pénibles. Selon ces militaires et leurs épouses, la prime octroyée par le gouvernement congolais est trop insuffisante pour arriver à nouer les deux bouts du mois. La ration militaire aussi est insuffisante et parfois inexistante selon eux. La débrouille est la règle pour la survie. Un grand nombre parmi ces militaires s'adonne aux petits métiers artisanaux et leurs épouses font du petit commerce devant leurs abris de fortune. Sylvestre Kilolo décrit la situation.
Nous sommes au cercle sportif de Goma, un lieu où des familles de militaires ont improvisé un camp depuis plus de 4 ans maintenant. Plus de 600 familles vivent en promiscuité sur place, dans des abris de fortune couverts de bâches qui ne les protègent pas des intempéries. Par-ci par-là, à l'intérieur de ces camps, ce sont soit des tomates, soit des poissons fumés ou salés qui sont sur des attelages devant plusieurs abris. D'autre part, ce sont des militaires qui font la cordonnerie, la couture, certains font la soudure dans un atelier d'ajustage. Leur solde n'étant pas à même de couvrir tous les besoins, comme c'est le cas de cet adjudant de la garde républicaine qui touche environ 14 000 francs congolais mensuellement.
Nous vivons mieux seulement les jours de la paix de notre prime. Dans cette même prime, nous avons des dettes à régler. À l'époque de Laurent Désiré Kabila, on avait notre ration les 15 de chaque mois, qu'on partageait même aux civils. Mais aujourd'hui, dès que nous voyons un civil passer, nos yeux se braquent sur son sac à main. Le gouvernement doit ouvrir l'œil pour éviter les crimes qui sont actuellement perpétrés par-ci par-là, qu'ils prennent des militaires en charge. Cela va mettre fin à l'insécurité.
C'est presque chaque jour que des militaires remplissent les sites du cercle sportif de Goma, un site pourtant réservé aux activités récréatives de la jeunesse et dont l'espace est ainsi grignoté au jour le jour. Goma, Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
La localité de Ndunda, dans la plaine de la Ruzizi, abandonnée hier soir par ses habitants. Ces derniers disent avoir fui l'envahissement d'un groupe des combattants burundais des FNL. Ces rebelles auraient traversé la frontière du Burundi pour venir récupérer deux des leurs capturés samedi dernier par les FRDC dans la forêt de Rukoko. C'est ce que nous dit ce témoin, joint depuis Uvira par Didas Namujimbo.
Ont attrapé des milices de FNL. Alors, on les a transférés jusqu'à Sang, là, il y a le commandant bataillon. Le commandant bataillon les a transférés à la 10e région militaire. Maintenant, hier, lundi, à 7h20, les attaques de FNL sont venus au village. Quand la population a vu que les milices de FNL, la population a pris fuite directement. Certaines personnes sont parties à Rissavagi, les autres à Sibourne, les autres à Sang. Maintenant, les FNL ont dit que ils vont revenir aujourd'hui encore, aujourd'hui mardi, pour négocier s'ils peuvent trouver ces deux milices qu'on a pris pour transférer à... Nous attendons comment ces milices vont réagir et comment les militaires de Sardes vont réagir.
L'administrateur du territoire d'Uvira et le commandant de la 109e brigade FRDC basée à Uvira reconnaissent l'incursion d'éléments armés. Ils annoncent pendant des dispositions sécuritaires pour empêcher toute nouvelle attaque dans cette partie de la plaine de la Ruzizi. Le démarrage effectif de la troisième phase du PNDDR prévu le lundi 9 juillet est retardé de 12 jours. En attendant, les leaders des groupes armés concernés par cette phase s'engagent à mener une campagne de conscientisation de leurs troupes. Par ailleurs, ces leaders devenus officiers FRDC continuent à attendre des réponses aux revendications présentées au gouvernement. Des précisions avec Sadala Chabani.
La nouvelle date du démarrage est fixée au 20 juillet prochain. Selon Jonas Sebem Fouette, chef des sous-bureaux de PNUD à Ituri, les leaders des anciens groupes armés se sont engagés à commencer immédiatement une campagne de conscientisation de leurs troupes. Pour la réussite de cette campagne, chaque groupe a reçu de PNUD la somme de $1,500. En marge de cette sensibilisation, les leaders des anciens groupes armés de Ituri attendaient des réponses du gouvernement, en particulier sur leur attente d'amnistie. La lecture d'une lettre du ministre de la Défense demandant à l'auditorat militaire la suspension des poursuites lancées contre les miliciens a répondu à leurs préoccupations. A noter que Cobra Matata, leader de FRPI, ne s'est présenté ni au lancement officiel de la troisième phase du DDR, ni à cette réunion de travail où il a délégué les officiers de liaison. Selon l'unité de l'exécution des peines des DR à Kinshasa, son absence n'inquiétait pas le gouvernement congolais qui continue à espérer son retour à la raison. Bounia, Sadala Chabani, Radio Okapi.
Plusieurs communes de Kinshasa sont dans le noir depuis hier. Pour la DGA de la SNEL, cette situation est due à une panne au niveau de la ligne Inga dans le Bas-Congo. Elle promet le rétablissement de l'électricité pour cet après-midi. Madame Bernadette Tokwaoulou Aena revient ici sur les causes et les solutions que la SNEL apporte à ce problème au micro de Baben Pongo.
Nous avons rencontré la rupture d'un conducteur au niveau de la ligne Inga-Kinshasa, au niveau de l'huile. Le défaut a été localisé hier à 17h. Vous vous souvenez qu'en 1998, nous avons enregistré une guerre dans cette région, que la ligne a reçu des coups de balle. À ce niveau, nous avions placé des manchons et le manchon a cédé. Résultat, au lieu de transiter 350 MW, nous transitons 220 MW, ce qui nous a obligés à délaisser. Nous avons alimenté les hôpitaux, les usines de traitement d'eau, les installations stratégiques. Depuis ce matin, les équipes sont au travail et nous pensons qu'au courant de l'après-midi, la situation va revenir à la normale.
Les travailleurs de l'OFIDA Katanga sont aussi en grève depuis hier soir. Ils réclament le paiement des arriérés de salaire des mois d'avril et de mai, ainsi que le bonus pour le quatrième trimestre de l'année dernière. Cette situation a des conséquences sur le travail des importateurs économiques dont les produits traînent à la frontière de Kasumbalesa, la principale porte d'entrée des marchandises en provenance de l'Afrique australe. Patrick Alombo, responsable des établissements Buisson Ardent, rencontré au centre-ville de Lubumbashi, dit son désarroi au micro de Jean Gandou.
Cette grève nous empêche de bien faire notre travail, car il y a des marchandises qui traînent à la frontière de Kasumbalesa. Et si ces marchandises n'entrent pas, c'est la population qui va payer le lourd tribut. De ce fait, que l'État congolais trouve une solution, car à Kasumbalesa, par exemple, qui est une grande porte d'entrée, si les travailleurs de l'OFIDA ne travaillent pas, nous non plus ne saurons travailler. Nous ne vivons que des activités de l'importation. Et si on ne les fait pas, imaginez-vous les conséquences pour la population.
À Kisangani, le ministre provincial en charge de transport a décidé de clouer au sol deux aéronefs de type Antonov. Ces deux Antonov 12 et 26 sont immatriculés en Ouganda. Selon le ministre provincial du transport, il ne dispose pas de documents requis pour la navigation aérienne. Actuellement, environ 10 agents des services spécialisés dans l'aviation qui seraient impliqués dans cette affaire sont détenus au cachot du bureau de l'Agence nationale de renseignement. C'est ce que nous dit Dorcas Konkou dans ce reportage.
Ces appareils sont venus d'Entebbe avec à son bord de marchandises pour des commerçants de Kisangani. Mais ils n'y sont pas en règle, ni pour survoler l'espace aérien congolais, ni encore moins d'atterrir sur l'une des pistes du pays, déclare le ministre provincial en charge de transport. Voilà qui a amené ces derniers à clouer ces deux aéronefs au sol à l'aéroport international de Bangoka. C'était le 4 juillet dernier, jour de leur opération dans cette ville. Déjà le 24 juin dernier, explique Willy Mugisa, ministre provincial en charge de transport, l'un des deux appareils avait effectué une rotation sans laisser des traces ni à la tour de contrôle, ni encore moins à la comptabilité de l'exploitation aéronautique de la RVIA. Le ministre provincial parle d'un réseau mafieux ayant opéré avec la complicité de quelques Congolais, raison pour laquelle 9 personnes ont été arrêtées. Le chef de division de transport, le chef de bureau de l'aéronautique civile et 7 agents de la RVA sont actuellement détenus au cachot de l'ANER. Le chef de division est soupçonné d'avoir perçu de l'argent pour délivrer de faux documents, tandis que les agents de la RVA, selon leur commandant, se sont compromis dans l'exercice de leurs fonctions. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
Avant de clore complètement ce journal, voici le rappel des titres. L'expulsion des Congolais de l'Angola était au centre d'une rencontre ce matin entre les autorités de ces deux pays. L'ambassadeur de l'Angola explique cette expulsion, notamment par l'organisation prochaine des élections en Angola. Le ministre congolais de l'Intérieur, lui, demande que cela se fasse dans la dignité. Au sud Kivu, les habitants de la localité de Ndunda ont abandonné leurs habitations depuis hier soir. Ils craignent des combattants burundais des FNL qui ont envahi leur localité. Et puis une grande partie de Kinshasa est sans électricité depuis hier soir. Cette panne qui provient de la ligne Inga dans le Bas-Congo sera réparée cet après-midi selon la DGA de la SNEL. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.